Nous avons vu plusieurs fois l'importance de la croissance spirituelle. Et nous avons vu l'exemple de Jean, le serviteur du Seigneur, le disciple du Seigneur. On a vu le premier amour qu'on voit avec Jean. On a vu comment il était en train de suivre le Seigneur Jésus. On a vu avec Pierre un disciple restauré. Et à la fin de sa vie, il donne des instructions pour tous les croyants, pour que tous puissent croître, faire des progrès. Et pour que tous soient attachés à la personne du Seigneur Jésus. On a vu déjà quelques fois que pour croître, pour faire des progrès, ça prend l'amour, l'amour pour le Seigneur. Ça prend une relation avec lui. Donc, est-ce que tous connaissent le Seigneur Jésus? Est-ce que tous l'aiment? Là, on peut faire des progrès. Et ce soir, j'aimerais terminer avec l'enseignement de l'apôtre Paul. Je vais lire encore un verset que Paul résume pour son ministère dans Colossiens 1, verset 28. Ensuite, on va revenir aux Éphésiens. Colossiens 1, verset 28, nous avons un résumé de ce ministère de Paul. Il présente une personne, il dit au verset 28, « lequel nous annonçons ». Donc il présente une personne, il est le messager, le représentant d'une personne merveilleuse. Et son ministère, exhortant tout homme. Et il enseigne. Donc il nous stimule pour suivre le Seigneur Jésus. Il nous enseigne, enseignant tout homme en toute sagesse, afin que nous présentions tout homme parfait en Christ. Donc ce que Paul voulait, que la position que nous avons en Christ soit une réalité dans nos vies de chaque jour. En d'autres mots, il voulait que nous soyons pratiquement ce que nous sommes en Christ, et que Christ soit vu ainsi dans les croyants. Maintenant, pour revenir à Éphésiens, nous voyons dans Éphésiens trois étapes. Nous voyons une présentation de la position que nous avons en Christ. Nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 1 à 3, c'est un résumé de cela. Donc, c'est notre position. Ensuite, dans chapitre 4, nous voyons notre marche. Et par rapport à notre marche, c'est la pratique. Nous voyons le nouvel homme. Là, nous voyons de nouvelles relations entre les croyants. Nous voyons comment ça fonctionne au foyer entre mari et femme, entre parents et enfants, ou enfants et parents. Nous voyons comment ce nouvel homme se manifeste dans ce monde, dans les relations entre maître et esclave, serviteur et maître. C'est tout un défi. Et tout à la fin de l'Épître, ce que nous avons lu ce soir, Éphésiens 6, nous avons un combat. Nous avons là ce que nous avons tous à faire, à combattre spirituellement. Ces trois éléments vont ensemble, notre position en Christ, notre marche comme chrétien et ce combat spirituel. Et ce qui m'a frappé beaucoup, c'est que ça va ensemble avec l'amour et ça va ensemble avec la puissance. Pour être vainqueur, nous avons besoin de puissance, de force. Et ce qui est vraiment frappant de voir ça, si vous voulez suivre avec moi, dans le premier chapitre, nous avons une prière de Paul, Éphésiens 1. Et là, nous voyons qu'il prie. C'est toute une prière, là. Je vais juste lire le verset 18 et verset 19. « Que les yeux de votre cœur étant éclairés pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints, et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération de la puissance de sa force qu'il a opérée dans le Christ Jésus, en le ressuscitant d'entre les morts. » Ce que nous voyons ici, c'est la puissance de Dieu envers nous. Une puissance qui agit pour nous, pour notre bien. Et c'est vraiment merveilleux ce que Dieu a fait pour nous. Et il démontre cette puissance dans la résurrection du Seigneur Jésus et en lui donnant une place à sa droite. C'est merveilleux. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Chapitre 3, une prière que nous avons lue déjà dans le passé, lorsqu'on a étudié ce sujet de la croissance spirituelle. Là, nous voyons une prière où Paul demande que cette même puissance opère en nous. Je vais juste lire ces versets-là. Verset 19, chapitre 3, verset 19 et verset 20. Et de connaître l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous. À lui, gloire dans l'Assemblée, dans le Christ Jésus, pour toutes les générations du siècle des siècles. Amen. Donc là, nous voyons la puissance de Dieu qui opère en nous. Et c'est de nouveau, ça va ensemble avec l'amour. On a vu cela au verset 18, fondé dans l'amour. Au verset 19, connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Et en même temps, ça va ensemble avec cette puissance, cette force qu'il veut nous donner, qui opère en nous. Et ainsi, nous faisons des progrès spirituel, une croissance spirituelle. Et toute la louange monte à Dieu, notre Père, par le Seigneur Jésus. C'est pas pour nous glorifier, c'est pour le glorifier, lui. Et finalement, dans Éphésiens 6, on va revenir maintenant à Éphésiens 6, nous voyons la même puissance. C'est une énergie merveilleuse, une puissance merveilleuse, une force, un pouvoir. Et tout cela, nous voyons maintenant que Dieu opère avec nous. Ce qu'on voit dans Éphésiens 6, c'est cette même puissance qui a opéré envers nous, pour nous sauver, cette même puissance qui opère maintenant en nous, pour que nous soyons des vainqueurs, cette puissance agit, opère avec nous, pour que nous soyons de bons soldats. Et ce qui m'a frappé avec Paul, vous pouvez lire dans 2 Corinthiens 12, il a dit, lorsque je suis faible, alors je suis fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'il n'attendait rien de lui-même, il a mis sa confiance dans le Seigneur, et c'est le Seigneur qui lui a donné la force. Et pour nous, bien-aimés, c'est la même chose. C'est le Seigneur qui nous donne la force. C'est le Seigneur qui nous donne la victoire. Il veut que nous soyons des vainqueurs. Mais nous ne pouvons rien faire sans lui. Le Seigneur Jésus l'a dit dans Jean 15, « Moi je suis le cep et vous le sarment, si quelqu'un demeure en moi et moi en lui, il porte beaucoup de fruits. » Et là il a dit, « Car séparé de moi ou sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc ici nous avons ce secret. Le Seigneur nous donne la puissance pour que nous puissions agir. Mais cette puissance vient de lui. Et ainsi, nous pouvons être vainqueurs. Le vainqueur est ici vu comme un homme qui prie. Il est sur le champ de bataille. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Et ainsi, il réalise que sa puissance vient de Christ. Et pour nous, c'est la même chose. Notre force, notre puissance vient de lui seulement. Si nous essayons à faire quelque chose de nous-mêmes ou de notre propre force, ça va échouer. Ça peut marcher un temps pour les hommes, mais pour Dieu, ça ne marche pas. Ni pour l'ennemi, parce que l'ennemi sait, si nous agissons en nous-mêmes, ça va être une défaite. Mais l'ennemi sait aussi, si nous allons de l'avant avec la force que le Seigneur donne, là, l'ennemi ne peut rien faire. Voilà le combat que nous voyons dans Éphésiens 6. Et ainsi, Dieu veut que nous soyons tous des soldats, des hommes faits, comme nous avons vu dans Colossiens 1, verset 28. Que nous puissions avoir une place dans l'armée du Seigneur. C'est ça la pensée. Le Seigneur veut nous équiper. Il veut nous préparer, mais il veut que nous soyons ainsi prêts pour le combat. On peut pas l'éviter. L'ennemi est là tout le temps. Et nous avons donc besoin de cette maturité pour pouvoir vaincre. Et je répète, ça va ensemble avec le premier amour. Le Seigneur Jésus est tout pour nous. Là, nous pouvons vaincre l'ennemi. On a vu plusieurs exemples déjà dans 1 Jean la dernière fois. Mais je veux me concentrer avec vous maintenant sur ce texte qui est devant nous, que nous avons lu dans Éphésiens 6. C'est une conclusion. Au reste, mes frères. Et là, Paul nous conseille. Qu'est-ce qu'il nous dit? Fortifiez-vous dans le Seigneur. Je ne peux pas parler de chaque mot maintenant, mais ce serait une étude intéressante d'étudier ce mot « fortifier ». Ça revient 7 fois dans le Nouveau Testament. C'est pour nous revêtir avec force. Donc, fortifiez-vous dans le Seigneur. De nouveau, ce n'est pas en nous-mêmes, c'est en lui. Ce n'est pas dans notre puissance, dans notre intelligence, dans nos forces, c'est en lui, dans le Seigneur. Dans le Seigneur revient 7 fois dans Éphésiens. 7 fois nous avons cette expression « dans le Seigneur ». Ça implique que nous pouvons faire les choses seulement en communion avec le Seigneur, en nous soumettant à lui, le Seigneur qui a toute autorité, pour marcher avec lui dans sa force. Et il le dit à la fin du verset 10, « et dans la puissance de sa force ». Chaque mot est important. Et ainsi, c'est le Seigneur Jésus qui nous donne l'énergie, il nous donne la force physique, spirituelle et mentale, tous ces aspects-là, et il veut nous contrôler. Un de ces mots-là, la puissance, implique la pensée de dominer, de contrôler. Ainsi, il faut que le Seigneur puisse avoir tout le contrôle de nos vies. Verset 11. Là, nous voyons comme un vêtement. L'armure est vue ici comme un vêtement. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu. Chaque mot est important. Revêtez, il faut s'identifier avec cette armure. Il faut que ce soit quelque chose de moi-même, mes habits. Nous devons revêtir Christ. Et ainsi, nous devons revêtir l'armure. Et il faut que ce soit l'armure complète. Si je manque un bout, l'ennemi va attaquer juste là où j'ai manqué à mettre un bout de cette armure. Et c'est l'armure de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé. C'est quelque chose que Dieu a. Dieu va montrer cette armure, cette puissance, pour introduire le monde à venir. Dans Ésaïe 59, verset 17, je pense, vous pouvez lire que Dieu a cette armure. Et Dieu va utiliser cette armure pour combattre tous les ennemis et pour ensuite accomplir ses promesses qu'il a faites à Abraham et Isaac et Jacob. Il va accomplir toutes ses promesses envers son peuple terrestre Israël. Et pour accomplir ses promesses, Dieu va se servir de cette armure complète. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de cette armure complète de Dieu pour faire face à l'ennemi. Nous avons aujourd'hui un combat dans le monde invisible. Si vous voulez prendre ça en note pour vous, pour lire Daniel chapitre 10. Dans Daniel 9, nous voyons la prière de Daniel et sa confession. Et nous voyons le plan de Dieu, le programme que Dieu a dans Daniel 9 à la fin. Et dans Daniel 10, nous avons une autre vision. Et là, nous voyons comment Daniel a compris quelque chose de ce qui se passe dans le monde invisible. Et ainsi, bien-aimés, nous avons besoin de cette armure pour combattre cette puissance dans le monde invisible. Nous n'avons aucune force en nous-mêmes. Mais là, il y a une puissance gigantesque dans ce monde invisible. Au verset 12, il parle de cela. Donc, prenons cela en note, Daniel 10 nous aide à comprendre ce combat dans le monde invisible. Je reviens au verset 11 encore. L'armure complète de Dieu, pour quel but? Afin que vous puissiez tenir ferme. Il veut que nous puissions être des soldats, des hommes faits qui peuvent se tenir devant l'ennemi. pas pour s'enfuir, mais pour tenir ferme. Et ensuite, il dit contre les artifices du diable, contre les méthodes du diable, les ruses du diable. Il a beaucoup de façons d'agir. Et si nous nous préparons pour une méthode, on va être pris par une autre méthode de l'ennemi. L'ennemi est très rusé. Il a beaucoup d'expérience. Et quelquefois, on dit qu'il fait de overtime. Il est toujours contre les croyants, contre le peuple de Dieu. Et il ne lâche pas. C'est pour cela que nous avons besoin de cette armure complète, mais être réveillé, être alerte, être là, disponible pour le maître. On a vu déjà pour la croissance spirituelle comment c'est important d'être disponible pour le maître. Ici, dans le contexte du combat spirituel, il faut être disponible aussi pour le général, pour notre Seigneur Jésus. Et là, il explique, c'est comme une parenthèse au verset 12, « Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair. » Ce n'est pas ici comme au Moyen-Âge, il organisait des armées contre les Arabes ou contre les Juifs ou contre n'importe quelle autre puissance. Ce n'est pas contre le sang et la chair. C'est pour cela que j'ai dit, c'est un combat spirituel, c'est par rapport aux puissances dans le monde invisible. C'est clair, Satan se sert de ce qui se passe ici dans le monde, mais le vrai combat a lieu dans le monde invisible. Et ainsi, Paul veut nous préparer, le Seigneur veut nous préparer pour que nous soyons prêts pour ce combat-là. Et ainsi, nous voyons que le vrai combat est dans le monde invisible, et ce qui se passe dans le monde invisible aura un effet ici dans le monde visible. Si nous sommes gagnants dans le monde invisible par la prière et par l'aide du Seigneur, là on sera vainqueur dans le monde visible. Et ce combat est donc pas contre le sang et la chair, mais contre les autorités. Il mentionne 4 points: contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. J'ai oublié le premier. Les principautés ou les chefs, les autorités ou la puissance, les dominateurs, c'est 3, et la puissance spirituelle de méchanceté, c'est 4. Il y a donc 4 aspects, 4 éléments de cette puissance spirituelle de ténèbres. Et le Seigneur veut nous fortifier. Juste un verset pour clarifier cela aussi. Dans 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. 2 Corinthiens 10, verset 4. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses. On voit cela dans l'exemple de Josué 6, le combat contre Jéricho. On voit cela dans d'autres chapitres de Josué, comment ce combat est vraiment contre les puissances spirituelles qui ont un effet ici sur la terre, dans le monde visible, évidemment. Mais je veux lire aussi le verset 5. « Détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ. » Voilà le soldat. Il est ici en combat et il détruit les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Voilà, c'est notre tâche présentement. C'est ça que Paul a fait dans ce combat spirituel. Et vous voyez, ça va ensemble avec le premier amour. Dans 2 Corinthiens 11, il dit au verset 2, « Je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul mari pour vous présenter au Christ comme une vierge chaste. » Il veut que nous soyons en premier amour pour le Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe? Satan est très rusé. Il utilise beaucoup de moyens. Et ici, il utilise ses ruses au verset 3. « Mais je crains qu'en quelque manière, comme le serpent, séduisit Ève par sa ruse. Ainsi, vos pensées ne soient corrompues et détournées de la simplicité quant au Christ. » Voilà un exemple de cette ruse. L'ennemi utilise ses méthodes, ses ruses contre les croyants. C'est pour cela que nous avons un combat à beaucoup de fronts en même temps. Ce n'est pas seulement un combat à un front qu'on peut identifier. L'ennemi va là attaquer l'autre front aussi, ou l'autre front là, où il vient d'en haut, il vient d'en bas. Il est partout. Et ainsi, nous devons être dépendants du Seigneur Jésus et vraiment être alerte en même temps, dirigé par son esprit. Et nous avons vu donc que ce combat est dans les lieux célestes. C'est là où nous avons notre position en Christ. Et dans les lieux célestes, nous sommes bénis. Ephésiens 1, verset 3. Dieu nous a bénis de toute bénédiction. Mais l'ennemi ne veut pas qu'on jouisse de ces bénédictions-là. Il veut faire n'importe quelle chose pour nous empêcher à jouir de ces bénédictions-là. Pourquoi? Parce qu'il sait, si nous ne jouissons pas de ces bénédictions-là, Dieu ne va pas recevoir l'adoration. Si nous pouvons jouir de ces bénédictions-là, qu'on voit dans Éphésiens et d'autres passages, là, on peut apporter la louange, la bénédiction à Dieu. Et c'est pour cela que ça va ensemble avec ce combat. Ça ne va pas automatiquement. Nous avons besoin de cette armure pour nous protéger et ensuite pour pouvoir fonctionner comme des adorateurs. Et tout en gardant ce premier amour, comme nous avons vu dans 2 Corinthiens 11. Et comme on peut voir dans Éphésiens 5, par exemple, aussi. Au verset 13, l'apôtre continue son enseignement et ses encouragements. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu. C'est un commandement, un ordre. Et il se répète, l'armure complète de Dieu. Rien de nous-mêmes, rien de notre propre puissance. On a vu cela dans 2 Corinthiens 10 aussi. Ce n'est pas charnel, ce n'est pas de l'homme, ça vient de Dieu. On doit utiliser les ressources que Dieu nous donne. Et on a besoin de l'armure complète. Et on verra en quelques versets comment cette armure est composée, de quelle façon elle est composée. Pour quel but nous devons prendre l'armure complète de Dieu? Afin qu'au mauvais jour, vous puissiez résister. C'est quoi le mauvais jour? D'un sens, j'ai dit, l'ennemi est toujours là pour nous attaquer. Mais il y a des occasions spéciales où il mobilise beaucoup de force. Je donne un exemple dans Actes 5 avec Ananias et Saphira. Il a essayé à corrompre le nouveau témoignage. On peut donner un autre exemple, Éphésiens à Éphèse. Paul a travaillé dans Actes 19. Il avait un résultat magnifique pour le Seigneur. Et là, il y avait ce grand tumulte. Et Paul pensait déjà que tous les témoignages seraient détruits. Donc, nous voyons quelquefois une occasion très spéciale, un vrai mauvais jour où l'ennemi mobilise toutes ses forces. Puis là, il veut que nous puissions résister. Tenir ferme et résister, ça va bien ensemble. Et ainsi, nous avons besoin de la maturité. Un bébé ne peut pas tenir ferme, un bébé ne peut pas combattre, et nous avons besoin de cette puissance qui vient de lui pour pouvoir résister, tenir ferme et résister. Résister veut dire opposer l'ennemi, donc on tient ferme pour opposer l'ennemi. Et là, il ajoute, après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tout surmonté veut dire ayant tout accompli et tout mené à bonne fin. Donc le soldat ou les soldats, ici c'est les soldats, les croyants vus ensemble, sont sous le contrôle du maître, du Seigneur Jésus, du général, et on est là pour suivre ses ordres. Et là on peut tout surmonter et encore tenir ferme. L'ennemi est très rusé. Donne un exemple, Élie, le prophète, le grand prophète Élie, a remporté une grande victoire dans 1 roi 18. Beaucoup de ces faux prophètes étaient tués. Le lendemain, il a reçu un message de Jézabel, il s'en est allé. Il a eu peur. Là, nous voyons comment on est vulnérable, on est très vulnérable. C'est pour cela que nous devons avoir cette armure de Dieu complète tout le temps. On ne doit pas attendre jusqu'à demain matin pour avoir... toutes ces pièces, les mettre ensemble. Nous devons toujours avoir cette armure complète de Dieu. Et l'ennemi est très rusé, il nous attaque dans des moments où nous sommes faibles. Où Moïse, son esprit était provoqué par l'état du peuple d'Israël. Et là, voilà, il a agi de sa propre volonté. Et ainsi, on peut donner beaucoup d'exemples où on voit comment l'ennemi attaque. Là où on est faible, ou là où on est on manque certains éléments. Non, on doit avoir toute l'armure au complet. Et là, il répète au verset 14, « Tenez donc ferme. » Et comment ? « Ayant saint vos reins. » Les reins, dans la Bible, nous parlent souvent du chef de notre force et aussi du centre de la sagesse avec les reins qui sont dans les... ici, cette hauteur-là, et qui ont besoin de cette ceinture pour être protégés. Et cette ceinture est la ceinture de la vérité. C'est pas ici la doctrine, c'est pas pour connaître toute la doctrine, non. C'est pour être pratiquement en accord avec la vérité. Ça veut dire que la vérité a un impact sur nous. Ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle, mais ici ça veut dire être saint de vérité. C'est sans article défini. Et ainsi, ça veut dire que la vérité nous contrôle. Ce n'est pas suffisant de connaître la vérité. Il faut que la vérité nous contrôle. Ce n'est pas suffisant que nous avons reçu l'Esprit Saint. Il faut que l'Esprit nous contrôle. Il faut être rempli de l'Esprit. On voit ça dans Éphésiens 5, verset 18. Soyez remplis de l'Esprit. Et ainsi, l'Esprit peut nous contrôler. Et ainsi, Paul veut, le Seigneur veut, que nous soyons remplis de cette vérité-là. Pas seulement dans notre tête, mais aussi dans nos cœurs, pour que nous soyons guidés par cette vérité-là. C'est très pratique. Et aussi, le deuxième élément, ayant revêtu la cuirasse de la justice, c'est de nouveau être revêtu. Et ici, la cuirasse de la justice, la cuirasse nous protège la poitrine, le cœur autour de nous, et ainsi c'est les droits de Dieu. La justice veut dire qu'on est encore, que pratiquement on est en accord avec la justice de Dieu, avec les droits de Dieu. On n'est pas en train de suivre nos propres pensées, mais on est en train de mettre en pratique la justice de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, nous avons vu dans le passé que Dieu nous a justifiés, il nous a rendus justes devant lui, lorsqu'on a mis notre confiance dans le Seigneur Jésus. Et nous avons vu aussi comment cette justice de Dieu se manifeste dans notre position et aussi dans notre marche. Et voilà, c'est cet élément-là qu'on voit ici, la cuirasse de la justice, veut dire que cette justice est vue en nous, dans nos vies, et nous sommes pratiquement en accord avec cette justice de Dieu. Ça implique donc que nous parlions la vérité, ça implique que nous maintenons les droits du Seigneur, la justice de Dieu. Ainsi, c'est comme une cuirasse pour nous protéger. Si moi, je connais intellectuellement cette pensée-là de la justice de Dieu, mais pratiquement, je ne suis pas en accord avec cette justice-là, ça ne marche pas, et c'est là où l'ennemi va m'attaquer. Le troisième point, la marche. Nous avons la paix avec Dieu. Mais maintenant, il veut que nous puissions marcher en accord avec cette vérité-là, en accord avec cette nouvelle position, afin que cette paix se manifeste aussi envers ceux qui sont encore perdus. C'est là, ainsi, les pieds doivent être chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Autrefois, on allait nos propres chemins. Maintenant, nous allons la voie, le chemin de la paix. Et ainsi, nous pouvons aussi être un témoignage. L'évangile, cette bonne nouvelle, se manifeste à travers notre marche. Comme le Seigneur Jésus, le messager de la paix, il veut que nous soyons des messagers de la paix. Quelle partie importante de l'armure. Et au verset 16, il dit, par-dessus tout, prenant, sont tous des commandements. Et des commandements qui impliquent la pensée que une fois on a commencé pour ceindre nos reins, pour le service, pour la marche, pour le combat, pour revêtir la cuirasse de la justice, mais la pensée est toujours là qu'on reste ainsi revêtu, on demeure revêtu, et on prend le bouclier et on garde ce bouclier. Et ainsi, au verset 16, le bouclier de la foi nous protège contre les doutes, contre les attaques subtiles de l'ennemi. Ainsi, nous aurons une protection contre les dards enflammés. C'est très difficile de se protéger contre des dards enflammés. C'est deux dangers pour pénétrer un dard, un arrow, mais aussi enflammé pour mettre les choses, pour faire brûler les choses. L'ennemi attaque de différentes façons. Ici, il y a deux attaques ensemble. Mais le bouclier de la foi peut éteindre ces dards enflammés pour qu'il n'y ait pas de résultat de cette méchante attaque. Et de nouveau, nous voyons là une position, une condition pratique. Ici, on marche par la foi. On est contrôlé par la foi. La foi nous protège contre l'ennemi. À un moment donné, Abraham a douté. Il a cru Dieu et Dieu l'a compté comme justice, Genèse 15. Et plus tard, il a douté. Est-ce que je vais avoir encore un fils? Et Genèse 16, nous voyons qu'il a fait des actions selon la pensée de Sarah. Et il a eu un garçon de Agar, Ismaël. Ce n'était pas la foi à ce moment-là. Donc le Seigneur veut que nous soyons toujours en garde et que nous puissions utiliser ce bouclier de la foi pour garder les pensées de Dieu, pour marcher en accord avec les pensées de Dieu, pour réaliser Dieu est pour nous, même si tout semble être contre nous, mais Dieu est pour nous. C'est le bouclier de la foi. Et au verset 17, prenez aussi le casque du salut, c'est la cinquième pièce de cette armure. Pour protéger la tête, pour protéger nos pensées, pour protéger notre raisonnement. Et ici, c'est le casque du salut. Donc, si nos pensées sont bien protégées et nous sommes dépendants du Seigneur dans nos pensées, ça va être salutaire. Mais ça implique aussi, par exemple, il y a beaucoup de croyants qui pensent qu'ils peuvent perdre le salut. Là, on ne peut pas être un bon combattant. Là, on ne peut pas être un bon soldat. Si on a des doutes, si on peut perdre le salut, c'est là où l'ennemi a réussi à nous attaquer. Donc il faut garder ce casque du salut. Sixième point, c'est l'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit, c'est intéressant comment ça va ensemble avec la parole. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup de l'esprit. Mais ils vont même aussi loin que si... S'ils pensent, c'est l'Esprit qui dit ça, et même si c'est en contraste avec la parole, ils vont suivre ce que l'Esprit leur dit, soi-disant. Mais ici, nous voyons que l'Esprit ne sera jamais en conflit avec la parole de Dieu. L'Esprit et la parole de Dieu vont ensemble. On voit cela avec le Seigneur Jésus dans les tentations, dans le désert. L'ennemi a tenté le Seigneur Jésus trois fois, Matthieu 4, Luc 4, et nous voyons dans ces trois tentations que le Seigneur Jésus a utilisé la parole de Dieu et il était dirigé par l'Esprit de Dieu. La parole et l'Esprit vont ensemble. Et ici, cette expression est parole de Dieu. C'est une parole à propos, une parole pour ce moment, une parole pour cette occasion spéciale. Donc, le mot ici implique que c'est un mot exactement pour cette situation-là. Mais il faut que ce soit la parole de Dieu. Et ainsi, l'Esprit se sert de la parole de Dieu pour nous aider à combattre. C'est l'épée de l'Esprit pour nous défendre, mais aussi pour attaquer l'ennemi. Les autres éléments sont pour la défense, mais il faut comprendre en même temps, le soldat va attaquer. Comment est-ce qu'il va attaquer? Comment il va utiliser cette armure de Dieu? Ça, c'est le septième point au verset 18. Priant. Encore tout le temps. Comme il faut toujours avoir le bouclier de la foi, ainsi il faut aussi toujours prier. Priant, et ça continue. Priant par toutes sortes de prières. Supplication. Donc, c'est une prière très intense. On supplie quelquefois. Seigneur, aide-moi. Et il dit toutes sortes de supplications. Ça couvre beaucoup. En plus, en tout temps. C'est le troisième élément de cette prière-là. quatrième élément de cette prière, par l'esprit. C'est pas par nos pensées, c'est dirigé par l'esprit, comme nous avons vu déjà. Ensuite, veillant. Il faut être alerte, comme j'ai dit tantôt. On a tendance à s'endormir. Pierre, les disciples sont endormis au mauvais moment. Une fois, Pierre était correct. Il s'est endormi en prison. Il a mis tout entre les mains du Seigneur, dans Acte 12. Là, il était correct. Mais quelquefois, il était endormi ou il ne devait pas être endormi. Donc, c'est là pour nous aussi un appel. Veillant, être alerte. Sixièmement, avec toute persévérance. Pas seulement avec persévérance, avec toute persévérance. Septièmement, et des supplications pour tous les saints. Si moi je ne veux pas prier pour tel et tel frère ou pour telle et telle sœur parce que j'ai des problèmes avec lui, j'ai un trou dans mon armure, ça ne fonctionne pas. Il faut pouvoir prier pour tous les saints. Si ce n'est pas le cas, j'ai des trous dans mon armure, puis l'ennemi va se servir de cela. Et Paul ajoute au verset 19, et pour moi, aussi pour certains individuellement. Ici pour l'apôtre, l'apôtre n'est plus là, il est maintenant au paradis. Mais nous pouvons appliquer cela. Quelquefois, on a besoin de prier spécifiquement pour une personne spéciale. Et il prie afin qu'il me soit donné de parler à bouche ouverte pour donner à connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile. C'est le ministère de Paul. Et nous sommes bénéficiaires de ce ministère-là. Il nous a montré ce mystère de l'Évangile. C'est de nouveau par rapport à une personne merveilleuse, par rapport à notre Seigneur Jésus. De nouveau, il veut nous attacher à sa personne. Il est dans la gloire. Et ainsi, bien-aimé, tout ce ministère de Paul se résume en un seul mot, Christ. Le ministère de Pierre se résume en un seul mot, Christ. Le ministère de Jean se résume en un seul mot, Christ. Et ainsi, le Seigneur Jésus veut nous aider à croître spirituellement, à nous attacher à sa personne. Là, on peut faire des progrès. Là, on peut aller de l'avant dans notre marche. Là, on peut aussi faire ce combat spirituel. Donc, le Seigneur nous aide à utiliser ses ressources, à jouir de notre position en Christ, à jouir de notre relation avec lui pour marcher en lui, marcher avec lui, mettre les choses en pratique selon ces pensées-là, mais aussi pour être disponible pour le maître pour ce combat. Ça prend la maturité, nous avons vu cela, ça prend une dépendance totale du maître, ça prend être alerte, ça implique continuer avec tous ces points que nous avons vus. On ne peut pas lâcher, on ne peut pas laisser faire juste un petit point. Non, tous ces points sont importants à la fois. Si un point manque, on va manquer complètement. Donc si même un seul élément de cette armure manque ou de cette attitude manque, on ne va pas réussir. Donc on a besoin de tous ces éléments-là à la fois. Ça semble être compliqué, bien-aimé, mais ce n'est pas compliqué. Comme j'ai dit, ça se résume dans cette relation d'amour avec le Seigneur Jésus. Là, il va nous guider par son esprit, il va nous guider par sa parole, et là, il va nous donner la victoire. Pour sa gloire. Quand est-ce que l'apôtre Paul a eu une grande victoire? Lorsqu'il a réalisé qu'il était extrêmement faible. Peut-être on peut terminer avec cet exemple. Dans 2 Timothée 4, je l'ai mentionné déjà dans le passé, mais c'est vraiment un passage qui est vraiment frappant. Là, il a eu l'aide du Seigneur Jésus tout à la fin de sa vie. Tous les avaient abandonnés. Et dans 2 Timothée 4, il dit au verset 16, « Dans ma première défense, personne n'a été avec moi, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit pas imputé. » Au verset 17, « Mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié, afin que par moi la prédication fût pleinement accomplie et que toutes les nations l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. » Donc ici, dans une situation de faiblesse extrême, Paul a eu la victoire par le Seigneur Jésus qui était là pour l'aider. Et pour nous, c'est la même chose. Il continue au verset 18, « Le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre et me conservera pour son royaume céleste. » À lui la gloire au siècle des siècles. Amen. Mais ainsi on peut être vainqueur, bien-aimé. Pas par notre force, mais par la force que le Seigneur nous donne. Et par ses promesses, « Le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre et me conservera pour son royaume céleste. » Ça vaut la peine de faire des progrès spirituels, la croissance spirituelle. C'est pour que Christ soit glorifié. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait ajouter, mais j'ai fini avec cette pensée-là. Et puis, j'espère que vous soyez encouragés par cette étude sur la croissance spirituelle. Parce que nous devons continuer à croître jusqu'au retour du Seigneur Jésus, qui nous aide à le faire, qui nous aide aussi à être dépendants de lui. Il est le grand Boaz. Vous connaissez l'histoire de Ruth et Boaz. Boaz veut dire « en lui la force ». J'ai mentionné l'apôtre Paul, et je pense encore à Philippiens 4, verset 13, où il dit que ce n'est pas le Seigneur qui peut avoir la victoire. Il a dit d'une autre façon, ça ne me revient pas tout de suite, là, mais dans Philippiens 4, verset 13, vous voyez cet élément-là. Ce n'est pas le Seigneur, seulement par lui, qui peut avoir la victoire. En lui est la force. Et c'est lui qui nous fortifie. Donc le Seigneur nous aide à être des vainqueurs, à marcher par l'amour. L'amour revient 10 fois dans Éphésiens. Aimer, l'amour agapé, revient 10 fois comme verbe dans Éphésiens. C'est très intéressant. Je mentionne juste ces points-là. Mais ça nous montre comment l'amour et la puissance vont ensemble. Que le Seigneur nous aide à être des vainqueurs par amour pour lui, par ce premier amour que nous avons vu. Et il veut nous stimuler pour avoir ce premier amour pour lui, pour être des vainqueurs, dans l'attente de son retour imminent. Amen.